Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Alors, trop souvent qu'on se croise, on se pose cette question, comment ça va? Comment ça va? Et généralement, on a pris le réflexe de répondre, ça va. Comment ça va? Ça va. Et généralement, c'est cela, ça devient un réflexe. Même si, au fond de nous-mêmes, nous sommes plongés dans des douleurs, dans des difficultés, dans des obstacles, dans des situations les plus compliquées qui soient, généralement, on répond, ça va. Ça devient un réflexe. Mais je sais que, peut-être au fond de vous-même, au fond de chacun d'entre nous, nous passons peut-être par des moments difficiles. Oui. Nous passons peut-être aujourd'hui par des épreuves terribles, pour nous et pour notre famille. Oui, nous connaissons peut-être en ce moment une souffrance extrême. Et nous attendons une issue favorable, mais qui n'arrive pas. Nous souffrons. La question est celle-ci. En qui placez-vous votre espoir? En qui ou en quoi mettez-vous votre confiance aujourd'hui, devant ces souffrances que vous connaissez peut-être, face à ces maladies qui nous rongent peut-être, au milieu de ces difficultés, sur qui comptez-vous pour trouver une solution? Ça, c'est la vraie question. Oui, face à cette solitude immense que vous traversez peut-être depuis longtemps, devant cette misère qui n'en finit plus, en qui mettez-vous votre espoir? Et d'ailleurs, pouvez-vous encore espérer quelque chose après tant d'années de souffrance, après tant d'années de solitude? Voilà les questions légitimes que nous nous posons et que nous pouvons nous poser dans nos vies si perturbées. Vous vivez peut-être aujourd'hui une situation difficile, et tellement difficile qu'elle vous plonge dans un désespoir total. Et peut-être que cette situation, vous la subissez depuis des années. Sans jamais trouver de solution. Peut-être même que plusieurs fois, vous êtes passé à côté de la solution à votre problème, sans jamais avoir l'opportunité de la saisir, cette solution. À chaque fois, quelqu'un d'autre vous passait devant. Alors, face à cette situation, face à cette maladie peut-être qui vous ronge, face à ce chômage qui n'arrête pas, face à, à vos difficultés, avez-vous encore de l'espoir de trouver une issue favorable? Et si oui, en qui placez-vous cet espoir? Quelqu'un m'avait dit un jour, tu sais Marcel, nous sommes tous des malades, mais on s'ignore. Nous sommes tous des aveugles et des boiteux de la vie, mais on ne le sait pas. Mais je pense qu'il a raison. Et la question que je me posais, c'est, oui, nous sommes aveugles de la vie. Sur qui comptons-nous pour nous ouvrir les yeux? Oui, nous qui sommes boiteux, qui aujourd'hui peut nous faire marcher droit? À nous, les paralytiques des temps modernes, qui peut nous dire encore aujourd'hui, lève-toi et marche. En qui mettons-nous notre espoir aujourd'hui? Chers frères et sœurs, vous êtes peut-être aujourd'hui, à force de souffrir et de subir les coups durs de la vie, sur le point de lâcher, sur le point d'abandonner votre foi. Vous êtes peut-être sur le point de perdre tout espoir, à force d'attendre une solution qui n'arrive pas. Aujourd'hui, à travers ce passage que nous allons lire, Jean chapitre 5, la parole nous apporte un message qui peut nous aider, qui peut être fondamental dans nos vies si difficiles. Et ce message, c'est le suivant. quelle que soit ta souffrance et quelle qu'en soit la durée, mets ton espoir en Jésus et il t'apportera la solution en temps voulu. Je le répète parce que je souhaite vraiment que vous ayez ça en tête aujourd'hui. Quelle que soit ta souffrance et quelle qu'en soit la durée, mets ton espoir en Jésus et il t'apportera la solution en temps voulu. Pour le dire autrement, je dirais, mets ton espoir en Jésus et tu auras la solution. Et je peux encore dire plus court, Jésus, c'est l'espoir des désespérés. Jésus, c'est l'espoir des désespérés. Jésus, c'est celui qui vient donner espoir à tous ceux qui ont perdu espoir. Là où tu as perdu tout espoir de travailler, Jésus vient te donner le travail. Là où tu as perdu tout espoir de guérison, Jésus vient te donner la guérison. Jésus, c'est l'espoir de tous ceux qui ont perdu espoir. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est pourquoi c'est en lui et en lui seul que nous devons et pouvons placer notre espoir et notre confiance. C'est ce que nous allons essayer de voir et de développer à travers ce passage que je vous invite maintenant à lire. Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Ce passage fait suite à un événement qui s'est produit dans la fin du chapitre 4, quand vous regardez bien, où Jésus guérit miraculeusement le fils de l'officier du roi. Un officier, voyant son fils malade, malade à mourir, et sachant que Jésus était dans les parages, vient voir Jésus et lui dit, « Seigneur, mon fils est en train de mourir. Peux-tu faire quelque chose ?» Et Jésus, voyant la foi de cet officier, lui dit, « Va, ton fils vit. » Il repart et il trouve son fils guéri. C'est donc après cet événement que Jésus décide de partir à Jérusalem, comme nous l'indique le début du chapitre 5. Et la raison principale de la montée de Jésus à Jérusalem, c'est d'assister à une fête. Le verset 1 nous dit, « Il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. » Il va donc à Jérusalem d'abord pour une fête. Il y va pour un motif de réjouissance. Et remarquons au passage que Jean nous parle d'une fête des Juifs sans même prendre le soin de préciser de quelle fête il s'agit exactement ici. C'est donc une fête parmi tant d'autres fêtes que les Juifs avaient l'habitude de célébrer chaque année, par tradition, mais aussi pour respecter la volonté de Dieu. Et je vous en citais 4 principales, mais il y en a d'autres. La fête de la Pâque, qui était considérée comme la fête chez les Juifs, c'est la grande fête. Il y a la fête des pains sans levain, il y a la fête de la moisson, Il y a aussi la fête des tabernacles. C'est les trois, les quatre principales fêtes, mais il y en a d'autres. Les Juifs avaient l'habitude de célébrer ces fêtes chaque année. Mais en tous les cas, la seule chose dont on peut être sûr ici, c'est qu'il s'agit de la, il ne s'agit pas de la Pâque. Sinon, Jean aurait pris la peine de le préciser, comme il le fait au chapitre 2, verset 13, il dit, la Pâque était proche et Jésus montait à Jérusalem. Mais la chose essentielle à retenir, c'est que le motif principal de la montée de Jésus à Jérusalem, c'est pour assister à une fête. Mais, à partir du verset 2, nous relevons un contraste, un paradoxe, quelque chose qui est contradictoire avec ce voyage. Et ce paradoxe, c'est quoi? Si vous lisez bien, on dit « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, etc., etc. » Et ce contraste, c'est quoi? C'est que pendant que la ville de Jérusalem s'apprêtait à faire la fête, et dans cette même ville qui se met en ébullition pour faire la fête, il y a une partie de la population qui est parquée quelque part et qui n'a pas du tout la tête à faire la fête. Et ce sont tous ces malades qui se trouvent à l'entrée de la ville, près de la porte des brebis, à côté de cette piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda. Et Jean prend la peine de préciser. Bethesda signifie ici la maison de la miséricorde. Le lieu où s'exerce la miséricorde. Ici, qu'est-ce que ça nous apprend? C'est qu'à côté de grandes réjouissances, à côté d'une très grande fête, il peut y avoir aussi une très grande misère. À côté des réjouissances, il peut y avoir aussi une très grande souffrance. Et les deux peuvent marcher ensemble sans même se regarder. Oui, dans cette même ville qui fait la fête, il y a des gens qui souffrent. Il y a des malades qui sont parqués quelque part. Et que trouve-t-on à Bethesda? Quelle catégorie de malades y trouve-t-on? Et qui et qu'est-ce qu'ils attendent exactement de cette piscine? Et quel est le rapport entre cette piscine et le souhait de guérison de ces malades? Quel espoir de guérison y a-t-il à Bethesda pour toutes ces personnes qui souffrent depuis tant de temps? À Bethesda, il y a plusieurs catégories de malades. Et j'en prends le soin d'en citer trois. Les aveugles, les boiteux et les paralytiques. Ces trois catégories ont toutes une seule et même particularité. Ce sont des personnes en situation de handicap, voire même d'handicap lourd. La parole nous dit au verset 3 qu'ils attendent tous une seule et même chose. C'est quoi? Le mouvement de l'eau. Ils accrochent tous les uns autant que les autres leur espoir de guérison sur ce phénomène naturel ou magique qui est le mouvement de l'eau. Au fait, c'est quoi cette affaire et cette histoire de l'eau qui bouge? Et quel est le rapport avec la possible guérison de ces malades? Jean nous rapporte ici, il faut le dire, une légende. Une légende qui circulait à son époque, une légende qui disait que un ange, on ne sait pas lequel, descendait de temps en temps dans la piscine à Bethesda et agitait l'eau. Et la première personne qui plongeait dans cette eau agitée guérissait de sa maladie, quelle que soit cette maladie. Vérité ou légende, phénomène divin ou magique, on ne sait pas. En tout cas, nous sommes en terre d'Israël et Dieu peut parler à son peuple de cette manière-là aussi, mais rien n'est tranché là-dessus. Et ce n'est pas mon sujet ce matin. Mais ce qui compte, c'est que Jean nous rapporte cette histoire. Et ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que tous ces malades de Bethsaida ont mis tout leur espoir de guérison dans ce phénomène étrange qui était le mouvement de l'eau. Mais nous pouvons ici relever aussi une contradiction encore, un paradoxe qui est lié à la condition même de guérison à Bethesda. Pour guérir à Bethesda, qu'est-ce qu'il fallait faire? Le critère de guérison à Bethesda exigeait de ces malades des aptitudes physiques qu'il n'avait pas. La vue, il fallait qu'il voie l'eau bouger. C'était des aveugles. Dommage. La capacité à courir pour être le premier à plonger dans l'eau, c'était des boiteux et des paralytiques. Dommage. C'est cela la contradiction, c'est qu'on demande à quelqu'un d'aller plonger dans l'eau alors qu'il n'a même pas les capacités de le faire. Et c'est cela, et c'est en cela, en ce mouvement-là, qu'il porte tous leurs espoirs malgré tout. C'est dire que tous les malades de Bethsaida, alors même qu'ils étaient en situation de handicap physique, ont placé leur espoir dans un phénomène qui leur exigeait d'ores et déjà des capacités physiques et extraordinaires pour accéder à leur rêve de guérison. Ces malades accrochaient leur espoir à quelque chose qui était de nature à les conduire au désespoir, puisque créant en eux une grande frustration. Mais imaginez les malades de Bethesda, imaginez leur frustration, imaginez ces gens qui, voyant l'eau bouger, n'avaient même pas les possibilités, les capacités physiques de plonger dans cette piscine. Ça devrait être terrible pour eux. Plus dur à supporter encore que la douleur qu'ils avaient. Mais ils s'accrochaient. Ils s'accrochaient à cet espoir qui était d'ores et déjà, quelque part pour moi, perdu. Au lieu de les rassurer et de donner espoir, la condition de guérison à Bethesda était de nature à créer le désespoir. Comment demander à un aveugle de voir le mouvement de l'eau? C'est impossible. Donc, pour les aveugles de Bethesda, l'espoir était perdu d'avance. Par le fait même qu'ils étaient dans l'incapacité de voir l'eau bouger et donc d'avoir la moindre chance d'y plonger au moment opportun. Comment attendre d'un boiteux qu'il court aussi vite pour être le premier à plonger dans l'eau qui bouge? Il ne le peut pas, au vu de son handicap. Et donc aussi pour les boiteux de Bethesda, l'espoir était perdu d'avance. Quant à la troisième catégorie, les paralytiques, leur sort était scellé d'avance. Ils ne peuvent pas bouger. C'est dire que leur espoir est de guérison est anéanti dès le départ. On se trouve donc là devant une situation complètement contradictoire. Devant des gens qui, tout en mettant tout leur espoir dans un phénomène, savent pourtant qu'ils n'ont pas les capacités physiques d'accéder à cet espoir. Pourtant, ils gardent quand même espoir dans cette piscine. Ils y restent. Ils y sont. C'est comme si quelqu'un demandait à un groupe d'enfants qui n'a pas de jambes et se plaçait à 100 mètres et leur demandait de venir chercher des bonbons. Imaginez la frustration de ces enfants. Ils ne peuvent pas marcher, mais on leur tend des bonbons à distance. C'est la situation de nos malades de Bethesda. Une grande frustration. Voilà dans quelle situation embarrassante ils se trouvent. À la fois dans un grand espoir de guérison, mais aussi dans une grande incapacité d'accéder à leur espoir. Il y a eu certes des guérisons à Bethesda, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais cela n'enlève en rien l'embarras dans lequel se trouvent ces malades. Ils sont là, et pourtant ils s'approchent, ils gardent espoir. Et cette situation de Bethesda nous parle à nous aujourd'hui. Elle peut nous parler, elle nous montre à quel point la souffrance peut conduire certaines personnes à s'accrocher à des espoirs parfois absurdes, pourvu qu'on ait le sentiment qu'on peut trouver une solution. On s'accroche. Celui qui souffre, oui, celui qui souffre est prêt à placer son espoir sur la première opportunité qui se présente à lui, aussi absurde soit-elle. Combien de fois avons-nous placé notre confiance sur des personnes qui se sont avérées peu fiables? Combien de fois nous sommes-nous fait avoir par des gens ou des situations sur lesquelles nous avons placé notre espoir? Combien de fois avons-nous été déçus par une opportunité qui était censée nous apporter soulagement? C'est cela. Chacun d'entre nous, j'en suis sûr, peut raconter une histoire de sa vie où il a été abusé par quelque chose ou par quelqu'un en qui il a misé tout son espoir. Oui, la souffrance peut nous conduire à placer notre espoir en tout et en n'importe quoi, sauf à l'essentiel. Je connais une personne qui a tellement souffert dans sa vie, tellement souffert qu'il s'est présenté à la première personne qui est venue à lui. Et vous savez qui était cette première personne? C'était un charlatan. C'était un vendeur de rêves. C'était un marabout. Il lui a dit, en échange d'argent, moi je vais te trouver la solution à ton problème. Résultat, elle s'est ruinée. Elle s'est ruinée. Je pense aux gens, les milliers de personnes qui vont en pèlerinage à Lourdes, par exemple. Je n'ai rien contre ce site ou quoi que ce soit. C'est très bien même. Mais il y a des gens qui y vont chaque année, une, deux, plusieurs fois. Parce qu'ils savent, ils se disent qu'ils ont là la solution à leur problème. Allez leur dire que peut-être la solution à ton problème ne viendra pas de Lourdes, de la grotte ou de cette fontaine. Aussi bénie soit-elle. Peut-être que ce n'est pas là. Ils ne vont pas vous croire. Ils ne vont pas vous croire. Oui, des gens placent leur espoir, par exemple, dans le port d'un crucifix. Mais je connais un ami qui ne quitte pas son crucifix. Il le met partout où il va. Je lui dis, mais alors, ça te sert à... Non, non, tout mon espoir est là. C'est cela qui me donne des solutions à mes problèmes. Je dis, t'es sûr? T'es vraiment sûr? Il me regardait comme un extraterrestre. Oui, il place son espoir sur ce crucifix qu'il a autour de son cou. Oui, nous plaçons nos espoirs parfois dans des choses absurdes lorsque la souffrance, lorsque le malheur, lorsque la difficulté nous atteint. Alors à Bethesda, Jean va s'intéresser à un malade en particulier. Et ce malade, il se distingue des autres par un certain nombre de critères. Il se distingue d'abord par la durée de sa maladie, 38 ans. 38 ans de souffrance. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'espérance de vie avoisinait à peu près les 40 ans. Ça veut dire que ce monsieur a souffert toute sa vie. Et toi, depuis combien de temps souffres-tu? Depuis combien de temps? Et il se distingue aussi par le type de maladie même qui l'affecte. C'était un paralytique. Il est bloqué, paralysé, alité. Il ne peut pas bouger. Il a besoin de quelqu'un d'autre pour bouger, pour avancer vers l'autre. Contrairement peut-être aux aveugles à qui on peut trouver quelques circonstances. Oui, l'aveugle, il peut marcher encore, il peut courir dans la confusion, il peut peut-être arriver à l'eau, oui. Le boiteux, en forçant un peu, oui, il peut arriver peut-être aussi à la piscine. Mais lui, il est bloqué, il est alité. D'ailleurs, Jésus le trouve dans une position couchée. Autant dire que sa situation est la plus désespérée qui soit par rapport aux autres. Et surtout, au vu des conditions de guérison qu'on demande à Bethesda. Voir, bouger, courir. Même s'il dit ici, vous rendez compte qu'au verset 7, il dit quand même, pendant que j'y vais, quelqu'un d'autre passe avant moi. Oh, j'ai envie de lui dire, mais tu bouges vraiment, tu es sûr? Moi, je pense que c'est dans sa tête. Il peut pas bouger. La preuve, c'est que Jésus le trouve couché. Mais il pense que dans sa tête, il peut bouger, il peut avancer. Sa situation est donc la plus désespérée. Et troisième chose, c'est que c'est surtout vers lui que Jésus va se diriger. Le cas le plus lourd, le cas le plus désespéré, c'est vers ce malade-là que Jésus se dirige. Et pourquoi? Pourquoi lui? Jésus ne s'est pas occupé des aveugles, il ne s'est pas occupé des boiteux, il est venu vers le paralytique. Pourquoi lui? Parce que c'est à travers ce cas le plus lourd, ce cas le plus désespéré, que Jésus va manifester sa gloire, sa puissance, et de la manière la plus éclatante qui soit. Vous connaissez le principe, qui peut le plus, peut le moins. En passant par le cas le plus lourd, Jésus va nous montrer là aussi qu'à partir de cet instant, il n'y a plus un cas qui puisse lui être désespéré. Il n'y a plus de cas désespéré pour Jésus. S'il est capable de trouver la solution à ce paralytique, alors oui, il est capable de trouver la solution à n'importe quel cas. Il n'y a plus de cas de plus désespéré pour Jésus. Oui. Et Jean veut nous montrer aussi ici, à travers ce cas, ce paralytique, que quelle que soit la souffrance, quelle qu'en soit la durée et la gravité, Jésus est la seule personne qui peut apporter la solution et la vraie solution. C'est lui. Et c'est pourquoi c'est en lui. Et en lui seul que nous devons placer notre confiance. Ah, Jésus. Oui, enfin, on le retrouve ici. On l'avait perdu un peu. On le retrouve. Rappelez-vous qu'il partait à Jérusalem, pourquoi? Pour assister à une fête. Il partait pour une fête. Pourtant, on le retrouve où? Non plus à Jérusalem, on le retrouve à Bethesda. On ne le retrouve plus là où on fait la fête, on retrouve Jésus là où les gens souffrent. On le retrouve à Bethesda qui veut dire maison de la miséricorde. On retrouve Jésus sur le lieu où il doit et va exercer sa miséricorde. Pourquoi? Parce que Jésus à Bethesda est là au cœur même de sa mission. La mission pour laquelle il est venu sur cette terre. Relever ce qui était courbé, guérir ce qui était malade. Regardez l'évangile de Matthieu au chapitre 9, verset 12. Parole de Jésus lui-même. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Voilà pourquoi Jésus se trouve à Bethesda. Voilà pourquoi il s'arrête. Il s'arrête à Bethesda, on ne parle même plus de fête ici. On parle que de Bethesda. Jésus est là où il doit être, là où les gens souffrent, là où règne le désespoir et la misère, pour rassurer, pour guérir, pour redonner espoir, là où tout espoir est perdu. Il était parti pour la fête, il se retrouve à Bethesda, le lieu de la miséricorde. Quelle grâce, quelle bonne nouvelle. Jésus est auprès de ceux qui souffrent. Alors que se passe-t-il? Que se passe-t-il entre Jésus et ce malade? Que peut nous apprendre cette rencontre extraordinaire et inattendue entre Jésus et ce paralytique? Le début du verset 6 nous dit « Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. » La première chose, chers frères et sœurs, à dire ici, c'est que Jésus voit et connaît notre souffrance. Jésus a vu ce malade particulier, couché au milieu de milliers d'autres malades. Et le seul fait de savoir que Jésus voit notre souffrance est déjà en soi une source d'espoir. Toi qui penses être seul dans ton malheur, toi qui penses que personne ne voit et ne comprend ta douleur, et que tu vis ta souffrance dans une indifférence générale, sache aujourd'hui que Jésus voit ta souffrance. Et s'il voit ta souffrance, c'est qu'il est prêt à intervenir. Si Jésus voit ta souffrance, alors c'est qu'il va venir. Et c'est un espoir énorme. Après la vision, vient la délivrance. Chers frères et sœurs, le fait de penser que personne ne voit notre souffrance est plus difficile encore à supporter que la douleur même que nous pouvons ressentir. Oui. Combien de fois sommes-nous retrouvés dans des situations où nous gémissons, nous crions, nous pleurons à côté de gens qui nous regardent, qui ne nous regardent même pas? Combien de fois le paralytique de Bethesda est exactement dans cette situation? Il souffre depuis 38 ans dans une solitude et une indifférence totale. J'ai connu une personne, le fils d'un de mes patrons. Il a souffert pendant des années. Et il pensait que personne ne voyait sa douleur. Personne, et c'est vrai. Pourtant, il avait une femme. Il avait deux enfants. Il avait ses parents encore. Et il avait nous, ses collègues. Et pourtant, personne n'a rien vu. Il se sentait seul dans cette souffrance. Tellement seul qu'il a fini par prendre la décision la plus lourde qu'un homme peut prendre dans cette vie, c'est de se donner la mort. Oui, oui, il a fini par quitter ce monde. Personne n'a rien vu. Il pensait être entouré, mais il s'est retrouvé seul, dans le désespoir le plus total, au point de mettre fin à ses jours. Oui, le désespoir le plus total peut conduire à des situations aussi dramatiques que celles-là. J'espère pour chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, que nous n'en sommes pas là. Et que si nous pensons être seuls dans nos souffrances, Jésus, lui, nous voit. Et puisqu'il nous voit, il va donc intervenir. Et c'est un grand espoir. Oui, Jésus nous voit. Il voit dans notre souffrance, comme il a vu le paralytique. Et c'est déjà en soi une source de motivation, une espérance pour nous. Mais il sait aussi depuis combien de temps tu es dans cette situation. Jésus sait depuis combien de temps tu traînes ce problème. Il dit ici, la suite du verset 6, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, etc., etc. Oui, ne vous inquiétez pas. Non seulement Jésus voit, votre cas, mais il sait aussi depuis combien de temps vous êtes dans cette situation. Jésus connaît votre vie. Il connaît votre passé, il connaît votre histoire. Et c'est cela la grande espérance que nous pouvons avoir. Car après cette vérité, après cette connaissance, vient la délivrance. Jésus apporte la délivrance. Mais il apporte d'une manière particulière, chers frères et sœurs. Regardez la fin du verset 6. Jésus dit au paralytique, « Veux-tu être guéri ?» Jésus commence par une question. Avant même de donner la solution, avant même de guérir, avant de délivrer, Jésus commence par poser une question. « Veux-tu être guéri ?» Une question qui peut sembler absurde, mais moi quand j'ai vu la question, je me suis dit, mais pourquoi il pose la question? Veux-tu être guéri? Mais c'est évident, non? Une question absurde face à un homme qui a souffert depuis 38 ans et qui n'attend qu'une seule chose, obtenir la guérison. Mais cela n'est-il pas évident que cet homme n'est présent à Bethesda que pour une seule et même chose, et un seul espoir qui est de retrouver la guérison? Pourquoi Jésus pose cette question? Et quel est le sens de cette question? La question de Jésus est, contrairement aux apparences, source d'espoir, source d'espérance. Elle est remplie d'espoir, car depuis 38 ans que cet homme souffre, personne ne s'est jamais présenté devant lui pour lui poser la moindre question sur sa maladie et encore moins sur son désir de guérison. Depuis 38 ans, c'est la première fois qu'une personne se présente devant le paralytique. Et c'est déjà en soi un grand espoir, un signe merveilleux. Parfois, chers frères et sœurs, ce que nous attendons dans nos souffrances, et j'en sais quelque chose, c'est que quelqu'un s'arrête et nous parle. Je connais des personnes en situation de grande précarité, en situation de sans domicile fixe, qui ne rêvent que d'une chose, une seule chose, que quelqu'un s'arrête quelques minutes et échange avec eux, parle. Non, ils n'ont pas trop besoin de vos sous, ils n'ont pas trop besoin de votre nourriture, même si c'est important, mais ils ont d'abord besoin d'une chose, qu'on s'arrête et qu'on leur parle, qu'on s'intéresse à leur souffrance, à leur douleur. Oui, j'ai été dans cette situation-là. Moi, à un moment donné de ma vie, j'ai été dans une situation où je marchais en route, je me disais, et si quelqu'un peut s'arrêter pour me poser la question, comment tu vas? Et si quelqu'un peut s'arrêter pour me parler juste 2 minutes, je me sentirais un peu mieux. Oui. Et ici, Jésus s'arrête devant cet homme pour lui poser cette question. Veux-tu être guéri? Et cette question, elle est là aussi pour nous montrer que parfois, certaines personnes ne veulent pas se sortir de leur souffrance. Oui, il arrive parfois que des gens se complaisent dans leur malheur et prennent finalement plaisir à être l'objet de la pitié des autres. C'est aussi pour cela que Jésus pose d'abord cette question, pour savoir si ce malade est vraiment dans un état d'esprit de conquête de la guérison. Oui, parce que la guérison, c'est une conquête. Battons-nous pour guérir. Non seulement de nos maladies physiques, mais aussi de nos maladies spirituelles. Battons-nous, c'est une conquête. C'est pour ça que Jésus pose cette question. Veux-tu être guéri? Parce que nous faisons partie du processus de guérison nous-mêmes. Mais oui, avant qu'il te pose la main dessus, tu dois d'abord dire et t'engager. Oui, nous connaissons dans nos vies des gens comme ça, qui à force de souffrir, ou même de nier leur souffrance, ne veulent plus faire d'efforts pour s'en sortir. Je pense à certains alcooliques, par exemple. Ils refusent de sortir de leur situation. Et même, parfois, nient leur état. Ils ne reconnaissent pas être malades. Il existe aussi une certaine catégorie de personnes qui aiment attirer l'attention des autres, tout simplement, en exposant leur souffrance. Non pas dans le but de s'en sortir, mais tout simplement par pur plaisir de voir notre réaction compatissante. C'est cela. Moi, j'ai connu des collègues Chaque jour, tu lui dis bonjour. Ouais, mais ça va pas. Il y a eu ceci. Oh là là, je souffre et tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies de trouver une solution? Et quand tu lui apportes une solution, il refuse. Elle se complaît dans sa situation de misère pour raconter, raconter encore et voir comment on réagit. Voilà aussi pourquoi Jésus pose la question. Il veut savoir, est-ce que tu es dans cet état-là? Est-ce que tu veux vraiment être guéri? Oui, nous faisons partie du processus de guérison. Et Jésus a besoin de notre engagement, de notre parole. Il a besoin de nous entendre, sachant que Jésus n'oblige jamais personne. Il ne guérit pas si tu n'as pas donné ton consentement. Il ne te pose pas la main dessus si tu n'as rien dit. C'est pour ça qu'il veut t'entendre. D'où cette question. Mais c'est ce qu'il fait aussi avec Bartimée, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Bartimée, après avoir crié toute la journée, Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. À un moment donné, Jésus s'arrête devant lui. Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Cette question est à mettre en parallèle avec celle-ci aussi. Veux-tu être guéri? Alors, es-tu prêt à t'engager par ta parole à cette guérison avec Jésus? La question de Jésus est donc déjà une question qui annonce la solution à venir. Elle est déjà remplie d'espoir, cette question. Elle annonce déjà la délivrance à venir. Elle annonce la guérison. Mais elle a besoin d'abord de ta réponse. Alors, comment répondre à cette question? Comment réponds-tu à cette question de Jésus? Veux-tu être guéri? Regardez la réponse du paralytique au verset 7. À la question de Jésus, veux-tu être guéri? Le malade ne répond ni par oui ni par non, comme on aurait pu s'attendre, mais il donne cette réplique surprenante. Je n'ai personne. Ah bon? Mais c'est une réponse hors sujet. Mais tu es hors sujet. Une réponse remplie de désespoir face à une question qui, elle, a plein d'espoir. D'ailleurs, le paralytique, quand on regarde de plus près, est-ce qu'il pouvait répondre autre chose? Pouvait-il répondre autrement que ce je n'ai personne? Au vu de la durée de sa souffrance et de sa situation, je pense que ça indiquait déjà, ça en disait déjà long à sa souffrance, à son état. Plusieurs fois, ce malade a vu passer sa chance de guérir. Plusieurs fois, d'autres lui sont passés devant. Plusieurs fois, il a dû se décourager sans jamais voir personne à ses côtés. Voilà pourquoi il donne cette réponse aussi. En tout cas, mais c'est comme ça que j'explique ça. Je n'ai personne. Et à force de subir l'indifférence des gens, le paralytique ne voit même plus que c'est lui qui lui parle. En ce moment, c'est lui qui est en face de lui, c'est une personne à part entière et qui donc peut l'aider. Jésus lui parle. Il ne le voit plus. Jésus peut le porter et le jeter dans la piscine. Mais il ne le voit pas, il dit, mais je n'ai personne. Mais Jésus a envie de lui répondre, mais je suis là. Je te parle. Moi, je suis devant toi. Et toi, tu dis, tu n'as personne. Et ce n'est même pas ça la question. Veux-tu être guéri? Oui. Chers frères et sœurs, le désespoir, une trop grande et longue souffrance peuvent nous amener à répondre hors sujet à la question de Jésus. Oui, je n'ai personne. Et cette réponse, nous pouvons la faire aussi. Nous l'entendons souvent. Oui, je n'ai personne dans mes souffrances. Je suis tout seul dans mes malheurs. Personne ne me voit. Nous l'entendons aussi. Nous sommes seuls. Mais toi qui penses n'avoir personne dans ton malheur, la parole t'apporte aujourd'hui une bonne nouvelle. Une nouvelle pleine d'espoir. Tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un. Tu peux dire à ton voisin, oui, j'ai quelqu'un. Oui, j'ai quelqu'un. Tu as quelqu'un. Et tu as quelqu'un qui peut te guérir. Tu as quelqu'un qui peut t'aider. Tu as quelqu'un qui peut t'apporter la solution à tes problèmes. Oui, tu as quelqu'un. Et cette personne, c'est Jésus. Et il est là devant le paralytique. Et c'est pourquoi il est important de placer tout ton espoir, toute ta confiance en lui. Et finalement, au verset 8 et 9, Jésus apporte la solution. Il apporte la délivrance à ce paralytique malgré sa passivité et malgré sa réponse hors sujet. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Imaginez la joie. Imaginez la joie, chers frères et sœurs, de cet homme qui a attendu 38 ans avant de trouver la délivrance. Et quelqu'un arrive un jour, il lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Quelle joie! Il marche, ce monsieur, il ne marche même pas, il court vers le temple. Quand vous lisez la suite, vous allez vous rendre compte que la prochaine fois qu'il se retrouve avec Jésus, c'est dans le temple. Il court. Quelle joie! Il n'y a que Jésus qui peut apporter une telle joie dans nos vies, dans nos cœurs. Le paralytique n'a plus eu besoin de plonger dans la piscine, non! Pourtant, il a gardé, mis tout son espoir dans cette piscine. Il a fondé tout son espoir dans cette piscine. Il n'a plus eu besoin de voir le mouvement de l'eau. Non, il a obtenu la guérison directement par Jésus-Christ. Quelle joie! Mets ton espoir en Jésus et il t'apportera la solution en temps voulu. Alors vous allez me dire, oui, c'est très bien beau ton discours, Marcel, c'est bien. Mais comment je fais? Comment mettre mon espoir en Jésus? Par quel moyen peut-on placer notre confiance en Christ? Quel outil peut-on utiliser pour être sûr de garder tout son espoir en Jésus-Christ et en lui seul? Qu'est-ce que je dois faire? Tu peux mettre ton espoir en Jésus par le moyen de la prière. Moi, j'ai trouvé une méthode formidable, la prière. La prière est un moyen nécessaire qui nous permet de garder notre lien avec Jésus. Et si nous voulons maintenir notre espoir en Jésus, nous devons développer en nous un esprit de prière. Avoir la culture de la prière à chaque instant. Paul nous dit dans son épître aux Philippiens, et je suis sur le point de terminer, soyez-en sûrs, au chapitre 4, versets 6 et 7, je vous le lis, vous pouvez juste noter la référence, Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en qui? En Jésus-Christ. La prière nous permet de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il n'y a pas meilleur moyen de garder espoir en Jésus que par la prière. Jacques, au chapitre 5, verset 15, nous dit: la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Paul, épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 12, il nous dit: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. La prière, encore la prière. La prière est donc un moyen de garder espoir en Jésus. Nous pouvons aussi garder notre espoir en Jésus par la foi, par le moyen de la foi, oui. Mettre son espoir en Jésus, c'est aussi, en quelque sorte, accepter que nous avons foi en ce Jésus-Christ. Nous avons foi en sa puissance. Nous avons foi en sa capacité d'intervention dans nos vies si difficiles. Oui, Hébreux chapitre 11, verset 1, je vous donne juste la définition de la foi. La foi est une preuve, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Notre foi est une expression de l'espoir que nous mettons en Jésus-Christ. L'espoir qu'il va nous voir, l'espoir qu'il nous apportera la solution. L'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Foi et prière. Deux outils pour garder espoir en Jésus-Christ. Alors, si vous voulez que Jésus vienne à vous, comme il l'a fait avec le paralytique, vous devez développer deux choses en vous, deux choses dans votre vie, chers frères et sœurs, la foi et l'esprit de prière. Chers frères et sœurs, vous qui passez peut-être aujourd'hui par des épreuves redoutables, retenez cette vérité, retenez cette chose, retenez cette parole. Quelle que soit votre souffrance et quelle qu'en soit la durée, mettez votre espoir en Jésus par le moyen de la prière et de la foi et il vous apportera la solution en temps voulu, pas quand vous voulez, quand lui il veut, parce que son temps n'est pas le nôtre. Car il est l'espoir des désespérés, l'espoir de tous ceux qui ont perdu espoir. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Prions. Père éternel, nous te remercions pour ta parole, cette parole qui nous rassure, qui nous demande de fonder tout notre espoir en toi, Seigneur. Comme tu as fait aux paralytiques, Seigneur, nous voulons aussi que tu viennes voir notre souffrance, que tu viennes voir nos malheurs, que tu viennes voir nos maladies, Seigneur, et que tu nous en délivres. Oui, Seigneur, tu es aussi présent dans nos douleurs. pas pour les provoquer, pas pour les causer, mais pour nous en délivrer. Viens, viens donc, viens nous aider à placer cet espoir en toi, par le moyen de la prière, par la foi, Seigneur, grand Dieu. Nous te remercions pour ta présence. Amen.